Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'attend à une remontée du nombre de morts du coronavirus en Europe au début de l'automne. C'est ce qu'a affirmé l'indicateur septembre le directeur de sa branche européenne. Le nombre de cas en Europe remonte nettement depuis plusieurs semaines, notamment en Espagne et en France. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de Covid-19 fait état d'au moins 395 104 cas confirmés et 30 999 morts au total. De 500 000 cas le 7 juillet dernier, l'Afrique est passée le 15 septembre à 1 359 000 cas selon l'OMS, qui recense également 32 788 morts du virus sur le continent. Un chiffre relativement faible au regard d'autres régions du monde, mais à prendre en considération. Nous ferons le point ce matin sur la situation de l'épidémie en France et sur le continent avec nos invités. Ils parleront des séquelles, des formes graves de Covid-19. Qu'il s'agisse d'une forme bénigne ou d'une forme grave, la Covid-19 peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur notre organisme. On en parle donc avec vous, docteur Sophie Fégueux. Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Africa Radio.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Partagez-vous les inquiétudes de l'OMS qui s'attend à une remontée du nombre de morts du coronavirus en Europe au début de l'automne, Sophie Fégueux?
Alors, c'est vrai qu'on est à l'heure actuelle, on a une certaine inquiétude. On avait vu qu'après le confinement, en mai-juin, on était vraiment dans une bonne situation où il y avait beaucoup moins de cas et plus d'hospitalisations et de décès. Et puis, à partir de cet été, à partir de juillet, surtout à partir du mois d'août, on a vu remonter le nombre de cas dépistés. Et là, depuis le mois de septembre, on voit à nouveau augmenter, ce qui nous inquiète beaucoup, le nombre d'hospitalisations et le nombre de passages en réanimation. Donc, on sait que le nombre de décès peut ensuite augmenter. On a effectivement une certaine inquiétude et il faut vraiment que les gens soient très vigilants pour qu'on ne reparte pas sur une nouvelle augmentation du nombre de décès.
Sophie Fégueux, peut-on parler de deuxième vague qui touche actuellement la France ?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de deuxième vague, parce que le virus, il a continué quand même à circuler, un peu à bas bruit, mais il est resté présent, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau finalement, c'est cette augmentation des cas plus graves. On continue l'augmentation du nombre de gens touchés, donc la transmission a tendance à s'accélérer, et on voit du coup apparaître des cas plus graves qui nécessitent une hospitalisation, voire un passage en réanimation.
Alors Sophie Fégueux, est-ce que vous constatez une augmentation des personnes admises à l'hôpital et en réanimation ?
Alors oui, ça. Donc depuis le début du mois de septembre, on voit quand même nettement qu'il y a eu à la fois un recours aux médecins, d'ailleurs aux médecins en ville pour des raisons de Covid, et puis une augmentation du nombre d'hospitalisations et de réanimations. Donc ça dépend des régions. Donc il y a certaines régions qui sont plus touchées, c'est surtout les grandes métropoles. Donc on en a beaucoup parlé, par exemple à Marseille, à Bordeaux, à Lille, c'est aussi le cas de Paris. Et puis, ça peut être le cas, par exemple, de la Guadeloupe, où on a aussi une augmentation très importante.
Docteur Sophie Fégueux, comment le virus se propage actuellement ? Est-ce qu'on se contamine plus facilement au travail et dans les réunions familiales aujourd'hui ?
Alors, déjà, on a pu voir que c'était des populations plus jeunes. Hein, ça passe pas mal par les jeunes qui, évidemment, ont plus de contacts sociaux, sortent plus. Donc, la répartition, elle a effectivement un peu changé. Donc, c'est toujours en premier, en tout cas, ce qu'on voit, les clusters, c'est-à-dire les regroupements de cas, c'est à peu près dans 30% des cas, on les voit dans les entreprises. Mais en fait, on les voit de plus en plus souvent dans le milieu familial. Maintenant, c'est plus un quart des cas. Et puis après, dans des événements publics, donc des rassemblements de personnes. Donc ça, c'est presque 20% des cas. Et on commence à voir, par exemple, à l'université, dans les écoles. Et puis, il y a toujours, bien sûr, c'est un peu moins important, heureusement, dans des établissements de santé comme les EHPAD. Et là, c'est plutôt autour de 10%.
Qu'en est-il des lieux professionnels, enfin, au travail, quels sont est-ce qu'il y a beaucoup de contamination sur les lieux de travail?
Alors, ce que je disais, c'est il reste quand même pas mal de contamination, mais finalement, c'est pas là où on voit l'augmentation la plus importante. Mais il y a effectivement certaines entreprises. On avait par exemple beaucoup parlé des abattoirs, qui sont des endroits un peu propices parce que c'est difficile de prendre des précautions. Enfin. Donc ça reste quand même un endroit, bien que les entreprises font quand même des efforts très très importants et toutes les mesures sont quand même appliquées de mieux en mieux au sein des entreprises.
Docteur Sophie Feguet, alors qu'en est-il des tests aujourd'hui? Quand doit-on se faire tester? Est-ce que c'est lorsque l'on a des symptômes ou alors en cas de contact avec une personne testée positive? Et est-ce que les tests sont efficaces aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que les tests, ça c'est un peu compliqué. Alors, d'abord, il faut voir qu'il y a beaucoup plus de tests qui sont faits qu'avant. Maintenant, il y a à peu près 1 million de tests par semaine, ce qui est très important. Alors, les personnes prioritaires, parce qu'on commence à avoir des problèmes d'accès aux tests et d'accès de délai pour avoir les résultats. Donc, les personnes prioritaires, c'est les personnes qui ont des signes de maladie qui peuvent correspondre à un Covid. C'est les personnes, comme vous l'avez dit, qui ont été contact d'une personne malade. Et puis les soignants. Donc c'est vraiment les trois grandes catégories de population qui doivent se tester en priorité.
Pourquoi l'attente des résultats dans certains laboratoires est-elle longue? Ça va jusqu'à une semaine pour certains cas?
Ah oui, donc vous avez tout à fait raison. C'est un souci à l'heure actuelle. Alors, comme j'ai dit, d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de tests maintenant qui sont réalisés. Donc, 1 million par semaine, ce qui est quand même très, très important. Et les tests qui sont faits à l'heure actuelle, donc c'est des tests où on fait un prélèvement dans le nez. Et après, on va techniquer au laboratoire, on va faire ce qu'on appelle une PCR. Et en fait, ces deux étapes, elles sont quand même assez longues et compliquées. Donc déjà, de faire le test, c'est pas un test très simple. Hein. Il faut prendre des précautions, aller chercher au fond du nez. Et après, la partie laboratoire, c'est une partie assez complexe et assez longue. Donc avec 1 million de personnes qui font les tests, ça explique que c'est les laboratoires commencent à avoir beaucoup de mal déjà à prendre les gens en rendez-vous. Et puis après, une fois qu'ils ont fait le prélèvement, à faire le test. Donc en fait, on est d'ici la fin du mois de septembre, il va y avoir des nouveaux tests possibles pour justement essayer de pallier le plus possible à tout cet encombrement. Donc il va y avoir d'une part des tests rapides, c'est-à-dire on fera toujours les mêmes prélèvements au fond du nez, mais on va pas faire une PCR, on va chercher ce qu'on appelle les antigènes, c'est-à-dire un petit bout du virus. Et donc ça permettra de rendre les résultats très rapidement en 15 à 20 minutes. Alors, ces tests-là, ils sont pas faits pour les gens qui sont malades ou qui sont contacts, c'est plutôt un test d'orientation, c'est fait pour les gens qui se font tester parce que ont l'impression d'avoir pris un risque ou ils partent en voyage, enfin. Et si ce test est positif, il faudra quand même faire une PCR derrière, mais ça permet de dépister, de faire un premier tri beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est les tests antigéniques rapides. Et puis, il va y avoir aussi une deuxième innovation, c'est les tests salivaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher au fond du nez, ce qui n'est pas très simple à faire et pas très
désagréable,
voilà, on pourra faire des tests sur la salive. Donc ça va faciliter le prélèvement. Alors après ces tests salivaires, il faudra quand même aller faire la PCR dessus. Donc l'étape laboratoire mettra toujours un certain temps, mais le prélèvement sera beaucoup plus simple. Donc avec ces deux séries de nouveaux tests, on espère que vraiment on va améliorer la situation qui effectivement n'est pas facile dans un certain nombre de laboratoires et de villes à l'heure actuelle.
En direct avec nous, le docteur Anneau Marin. Docteur Anneau Marin, bonjour. Allô, docteur Anneau Marin. Docteur Anneau Marin, est-ce que vous êtes là? Docteur Anno Marin, qui est médecin basé à Abidjan, directeur de l'espace médical La Pyramide.
Nous avons
quelques soucis pour joindre le docteur Anno Marin. Alors, docteur Sophie Fégueux, on parle aussi des séquelles formes graves de Covid-19 dans cette émission. Alors, quelles sont pour vous les principales séquelles des formes graves de Covid-19?
Alors, d'abord, il faut voir que le Covid, comme vous savez, c'est une maladie très récente. Hein. On a vu ça arriver en France en février et surtout en mars. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de recul. Et pour l'instant, c'est un peu difficile de dire quels vont être les problèmes au long terme. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que déjà, la majorité des gens n'ont pas de séquelles. La plupart des gens n'ont pas des formes graves. Et dans les formes graves, il y en a beaucoup qui n'ont pas de séquelles.
Oui.
Alors, les formes qui peuvent rester, la première chose, c'est le poumon. Parce qu'on sait que c'est un virus qui touche en particulier le poumon. Donc, et c'est ce qui entraîne d'ailleurs la mortalité. C'est qui sont obligés d'aller en réanimation parce qu'ils ont beaucoup de mal à respirer, leur poumon est atteint. Alors au départ, on était très inquiets parce que en particulier les scanners, on voyait que les poumons étaient très atteints. On était assez inquiets au départ de ce que ça allait donner au bout de quelques mois. Alors, on voit qu'il y a des gens qui continuent à être gênés, qui sont obligés de faire de la rééducation, de la kiné. Mais les derniers résultats qui ont été présentés la semaine dernière montraient que, heureusement, il semble pas qu'il y ait vraiment des formes de fibrose, hein, où le poumon serait complètement fibreux, il ne pourrait plus marcher. Et il semble que les gens continuent à récupérer avec le temps. Donc ça, c'est les formes pulmonaires.
Oui.
Et puis par ailleurs, on sait que c'est un virus qui touche plein d'organes différents. Donc il peut toucher l'odorat, il peut donner des problèmes neurologiques, des problèmes cardiaques. Et donc là, pour les problèmes d'odorat, en général, les gens récupèrent dans les 2 mois. Les problèmes cardiaques ou neurologiques, il faut qu'on surveille pour voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, la semaine dernière, a demandé au Haut Conseil qui fait les expertises de faire un point pour regarder ce qui se passe en France et dans le monde pour justement savoir s'il y a des formes, ce qui se passe au bout de quelques mois, si il y a des formes graves qui persistent, quelles formes graves. Donc, pour l'instant, on n'a pas les données et on surveille ce qui se passe pour voir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent.
Alors, quelles sont les séquelles psychologiques et psychiatriques, selon vous, docteur Sophie Fégueux?
Alors, c'est vrai qu'en particulier au moment du confinement, où on a beaucoup regardé ça, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes d'anxiété, pas mal de dépression et beaucoup de gens qui avaient des problèmes de sommeil. Donc, nous, on a une étude, on surveille tous les 15 jours pour voir ce qui se passe. Et après le confinement, progressivement, finalement, ça s'est amélioré. Donc, les gens sont au niveau des dépressions, de l'anxiété, des troubles du sommeil. C'est en train de revenir finalement, à ce que c'était avant la Covid. Mais on continue à surveiller parce que c'est vrai qu'avec la reprise de l'épidémie, on voit bien que c'est compliqué, en particulier pour les gens qui ont déjà des problèmes psychiatriques, qui ont tendance à être déprimés. Donc on surveille de très près parce qu'on pense qu'effectivement, ça peut être un problème très très important.
On constate que certaines personnes, alors qu'elles n'ont jamais été hospitalisées, ne guérissent pas, elles subissent une fatigue générale persistante. Comment on l'explique ?
Alors ça, c'est une des choses effectivement qu'on regarde. Est-ce que c'est effectivement des gens qui disent que, alors qu'ils n'ont pas fait forcément des formes très sévères, ils se sentent très fatigués pendant des mois. D'ailleurs, il y a des consultations médicales dans certains hôpitaux qui se sont ouvertes. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas assez de recul, on ne sait pas encore. On surveille, on est en train de regarder. Les médecins regardent ça de très près. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui est lié au virus, ce qui peut se passer, est-ce que ça va rester chez les gens. Donc tout ça, c'est les mois à venir qui vont nous donner plus d'éléments.
Et pourquoi toutes ces disparités en ce qui concerne les symptômes ou en tout cas les séquelles, pourquoi d'une personne à une autre les séquelles sont graves ou moins graves ou en tout cas différentes ?
C'est vrai qu'on se pose plein de questions, même sur les signes. Finalement, on a découvert plein de signes auxquels on ne s'attendait pas. C'est une nouvelle maladie, un nouveau virus. Donc, la médecine, c'est comme ça. On constate, on regarde, on surveille, mais on n'a pas d'explication. Enfin, c'est avec le temps. On a besoin d'un peu de temps pour comprendre, pour voir ce qui se passe. Donc, pour l'instant, on est vraiment au tout début de la maladie. Ça fait quelques mois, quoi.
Est-ce qu'il y a un profil de malade de forme persistante, selon vous ?
Alors là, on sait pas du tout parce que, ouais. Je pense que c'est on va voir en particulier les médecins, les consultations qui s'attachent à regarder ce genre de problème. C'est eux qui pourront dire. Moi, ce que je vous disais, c'est que les seuls éléments. Donc ça, c'était un congrès la semaine dernière qui portait là sur les formes pulmonaires qui sont quand même très importantes. C'était plutôt rassurant. Ça montre qu'effectivement, ça peut durer plusieurs mois, mais que les gens, finalement, continuent à récupérer progressivement. Et surtout, ils n'ont pas des séquelles qui seraient irréversibles. Ils n'ont pas de fibrose. Donc, voilà, mais je ne sais pas, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, on aura de nouvelles données. Et c'est toujours très difficile quand on est au moment d'une infection nouvelle de prévoir ce qui va se passer.
Et a-t-on des médicaments efficaces pour les soulager, pour soulager ces personnes qui ont développé une forme persistante ?
Alors, je pense que ce que je disais, c'est que là, par exemple, tout ce qui est kiné, il y a des programmes pour aider les gens. Alors, on n'a pas parlé des gens qui ont été en réanimation très très longtemps. Donc ça, c'est des gens qui après mettent beaucoup de temps à récupérer, qui ont besoin de beaucoup de rééducation. Donc la rééducation, la kiné, et puis un suivi régulier par des médecins, tout ça c'est très important.
Est-ce que dans le contexte actuel, docteur Sophie Fégueux, vous conseillez de limiter les réunions familiales, les mariages et les cérémonies ?
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une partie finalement de plus en plus importante des départs d'épidémie, c'est effectivement dans le milieu familial, hein, c'est plus d'un quart maintenant, ça commence à être beaucoup, et les événements, les regroupements de personnes, que ça soit dans un cadre public, dans un bar ou dans un milieu familial, ça peut être effectivement les mariages. Ou d'autres cérémonies. Donc, il faut vraiment, à l'heure actuelle, être très, très vigilant parce que les gens se sentent en sécurité à l'intérieur de la famille ou dans un groupe de gens qu'ils connaissent. Ils ont l'impression que, autant s'ils prennent les transports ou s'ils vont dans une entreprise, il y a des risques, autant, dès que c'est des gens qu'ils connaissent, il n'y a plus de problème. En fait, c'est pas ça. Vous pouvez avoir quelqu'un de votre famille qui est malade, qui n'a pas de signes et qui peut le transmettre à toutes les personnes de la réunion. Donc, il faut vraiment être très très vigilant et éviter, le plus possible, des regroupements. Et quand on est en famille, il faut absolument appliquer les gestes barrières, surtout vis-à-vis des gens les plus fragiles. C'est pas facile, c'est-à-dire. Il faut pas embrasser les gens, il faut pas serrer les mains, il faut se tenir à 1 mètre. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur d'une famille, c'est beaucoup plus difficile.
Est-ce que vous diriez que la situation dans les établissements scolaires pose problème aujourd'hui, Sophie Fégueux ?
Alors, il y a un certain nombre il y a eu un certain nombre de fermetures de classes et de fermetures d'écoles, mais qui finalement sont quand même très très limitées, hein, par rapport à l'ensemble des classes, l'ensemble des écoles. Donc, c'est vraiment pas là qu'il y a un problème à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il y a des mesures qui paraissent raisonnables. Mais finalement, quand on voit le taux de fermeture, par exemple, c'est quand même très rassurant.
Et c'est Docteur... souvent des personnes adultes, en fait, qui ont qui développent la maladie dans les établissements. Et rarement
Alors,
les enfants.
Oui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les enfants, ils font moins, en tout cas les jeunes enfants, hein, je ne parle pas des adolescents, les jeunes enfants, ils sont moins touchés, ils transmettent visiblement assez peu. C'est ce que toutes les études dans tous les pays, en fait, montrent. C'est pour ça que finalement, alors qu'au début, on avait quand même très peur de tout ce qui était transmission dans les petites classes, hein, ce qui est le cas de la grippe, et ben on s'est rendu compte que pour la Covid, c'était pas la même chose.
D'accord. Docteur Sophie Fégueux, pour revenir aux personnes qui développent des formes persistantes, est-ce que ces personnes restent toujours contagieuses tout le temps? Et comment faire aussi pour l'entourage?
Alors, bon, déjà, les formes persistantes, on ne sait pas très bien. C'est pas vraiment des formes persistantes. C'est des gens qui gardent des signes, comme vous disiez, la fatigue, l'essoufflement pendant un certain temps. Alors, les gens, en fait, ils sont plus contagieux qu'ils soient malades ou pas, hein, parce qu'on peut être contagieux quand on n'a aucun signe au bout de quelques jours. Donc, c'est pour ça que on a changé récemment la durée de la quarantaine. Maintenant, on est passé à 7 jours parce qu'on sait qu'au bout de 7 jours, il n'y a plus tellement de risques. Donc, la période de contagion, elle n'est pas très très longue. Mais elle existe qu'on ait des symptômes, pas de symptômes. Et après, en fait, le risque de contagion est très très faible.
Et ça comment faire pour l'entourage?
Alors, pour l'entourage, eh ben, il faut être très prudent. Il faut absolument faire les mesures barrières, donc c'est-à-dire éventuellement mettre un masque, se laver les mains régulièrement, ne pas s'approcher à plus de 1 mètre, essayer de bien aérer la maison. Si dans certains cas c'est très compliqué pour une personne malade vis-à-vis de son entourage, il y a des possibilités que la personne malade soit logée ailleurs. Si c'est trop compliqué dans la famille pour pouvoir appliquer les mesures barrières.
C'est-à-dire qu'on peut continuer de développer des symptômes et ne plus contaminer?
Ah ben oui, la durée de contamination, donc en fait, elle est assez courte. Et par exemple, les gens qui sont hospitalisés souvent et qui vont passer en réanimation, souvent le problème c'est plus tellement le virus, c'est la réaction inflammatoire qui suit l'infection. Par exemple, les gens qui se retrouvent en réanimation, souvent c'est au moins 15 jours, 3 semaines après le moment où ils se sont contaminés. Et donc c'est plus tellement le virus, mais c'est la réaction qui a déclenché le virus dans leur organisme, qui explique qu'ils font des formes, par exemple, pulmonaires très sévères. Donc c'est plus la réaction, alors c'est dû à des substances qu'on appelle des cytokines, qui donnent de l'inflammation. Et donc c'est finalement cette réaction qui est très importante et qui va provoquer un certain nombre de problèmes.
Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Une fois de plus, Sophie Fégueux, on vous souhaite une très bonne journée. Je rappelle que cette émission a été préparée par Nadir Djenad, donc elle sera téléchargeable très bientôt sur les réseaux d'Africa Radio. C'est la pause, on se retrouve pour l'info dans un instant, bougez pas.
Merci beaucoup.